Voilà, bonjour à chacun. On va commencer aujourd'hui une nouvelle série. Ce ne sera pas une série sur un livre biblique, je m'en excuse. Mais réfléchir sur la question du thème du travail, en fait. Quel est le lien entre notre foi en Jésus-Christ et notre travail? Le mois dernier, il y a une philosophe française qui a été invitée, Julia de Funès, qui a été invitée au Club 44, à la Chaux-de-Fonds, pour parler de la question du bonheur au travail. Et en abordant cette question du bonheur au travail, elle a mis en avant les problèmes qui existent actuellement au travail. Elle a notamment parlé de ces trois problèmes-là. Le burn-out, qui est le syndrome d'épuisement professionnel, c'est sa définition, c'est pas la mienne. Hein. Le bore-out, qui est le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui, on s'ennuie au travail, c'est pas très intéressant ce qu'on fait, voire on est au placard. Ou aussi le brown-out, qui est un syndrome d'épuisement professionnel provenant de l'absurdité de la tâche à accomplir. Et en mettant, en relevant ces problèmes actuels du travail, elle s'en prend en fait aux réponses qui sont proposées dans les entreprises. Et la réponse est la suivante, c'est une volonté de distraire les employés en leur amenant du bonheur dans l'entreprise pour que vous puissiez bien travailler, pour que ça puisse mieux se passer sur vos lieux de travail, on vous propose du bonheur. Par exemple, on vous pose un baby-foot pour qu'à la pause, vous puissiez vous détendre. On vous propose des massages, le coiffeur et beaucoup d'autres services. Et elle relève même qu'il y a eu des postes qui ont été inventés pour cela, notamment le responsable du bonheur en entreprise. Donc, un nouveau poste dans certaines entreprises. Je ne l'ai pas vu encore dans l'église, mais c'est pas grave. Et selon elle, en fait, elle s'en prend à ses réponses. Parce que selon elle, ce n'est pas la bonne méthode. Ça ne résout rien. En fait, pour elle, ça empire la situation. Et c'est ce qu'elle défend même au travers d'un livre. Et elle a fait plusieurs conférences ces derniers temps là-dessus. Le problème, c'est qu'avec cela, en fait, on est plus en train d'infantiliser le travailleur. On veut définir pour lui ce qu'est le bonheur, plutôt que à chacun de laisser définir qu'est-ce qui le rend lui heureux. On veut lui amener le bonheur et lui normaliser le bonheur, plutôt que chacun puisse définir pour lui-même ce qu'est le bonheur. Et au final, on le distrait pour mieux l'utiliser. Et la réponse qu'elle propose, c'est que pour faire face à ces difficultés, en fait, le travailleur a besoin de retrouver le sens. Le sens de ce qu'il fait, le sens de son travail, le sens de son activité. Et effectivement, cette question est très importante. Quel est le sens de notre travail? Pourquoi travaillons-nous? Et pourquoi travaillons-nous? Pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots travaillons-nous? Pourquoi faisons-nous cela? Et cette question est très pertinente pour nous aussi en tant que chrétiens et il nous faut l'aborder aussi dans cette perspective chrétienne. Quel est le sens à notre travail que donne le Dieu de la Bible? Comment notre Dieu créateur et rédempteur, et face à la création et face à la rédemption, quel regard notre Dieu a sur notre activité? Et c'est cette réflexion que je vous propose pour 5 semaines, en fait, pour être très exact. Parce que si on veut bien prendre le temps d'y réfléchir, le travail est au final ce qui occupe le plus de temps de notre vie, quasiment, après le sommeil. N'est-ce pas? On travaille 42 heures par semaine en moyenne en Suisse, et cela pendant 45 ans. Et donc, c'est quand même intéressant de savoir comment Dieu voit cela. Comment Dieu veut qu'on fasse cela. quelle attitude Dieu veut pour nous. Et au final, comment Dieu veut qu'on accomplisse notre mission dans notre travail. Comment aimer Dieu et notre prochain par et dans notre travail. Et c'est clair qu'on ne veut pas réduire cette notion de travail à une activité qui est rémunérée. On veut élargir cette définition à tout type d'activité, qu'il soit manuel, intellectuel, créatrice, artistique, même si elle n'est pas rémunérée. Le grand drame de notre société, c'est que le salaire, quelque part, donne de la valeur au travail. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu le voit. Et on veut voir et réfléchir effectivement à tout type d'activités, même celles qui ne sont pas rémunérées, comme le bénévolat dans les associations de la ville, de l'aide aux démunis, ou plus simplement même si ce n'est pas plus simple comme activité, des parents au foyer qui ont une vraie activité, qui s'engagent vraiment envers leur famille pour éduquer leurs enfants, même si cela n'est pas valorisé par un salaire. Et c'est vrai aussi pour les chômeurs, pour les jeunes aux études ou pour les retraités. Ils agissent également dans la société, ils ont une activité, même si elle n'est pas valorisée par un salaire. Mais eux aussi, ils mettent en activité des compétences manuelles, intellectuelles, créatrices et artistiques. Donc pour cela, je propose qu'on réfléchisse à ces 5 points, pas aujourd'hui, un à la fois. Donc aujourd'hui, on va s'attacher au premier, le travail à l'origine, comment Dieu a défini, comment Dieu voit le travail à l'origine. La semaine prochaine, le lien entre le travail et la chute. Qu'est-ce que ça a changé? Et on le voit et on le vit, et quel danger cela est mis en avant. Le travail et l'évangile nous donnent un nouveau maître à servir. Le travail et l'évangile donnent un nouveau sens à notre activité. Le travail et l'évangile qui donnent une nouvelle opportunité. Donc comme dit, aujourd'hui, on va s'attacher à la première proposition. Donc, quel sens Dieu donne à notre activité lors de la création? Et si Dieu donne un sens, la question qui surgit forcément de cela, c'est quel impact cela devrait avoir aujourd'hui dans ma vie, quelle que soit mon activité, qu'elle soit rémunérée ou pas. Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans la Genèse, au chapitre 1. Et la première chose qu'on peut voir de manière assez étonnante, dès les premières pages de la Bible, c'est que le travail, l'activité correspond à une mission. Travailler, c'est une mission que Dieu confie à l'homme. Et regardez au chapitre 1 donc, de la Genèse, nous allons lire les versets 26 à 28. Donc je le lis à partir du verset 26. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. » Ce qui est vraiment étonnant dans notre texte, c'est avant que l'homme existe, alors que l'homme et la femme sont encore dans la pensée de Dieu, Dieu leur donne déjà une mission. Et cette mission, c'est de travailler. On va les créer pour travailler. C'est vrai que dans notre société, ou parfois en tant que chrétien, on a toujours un peu cette peur, on ne vit pas pour travailler, n'est-ce pas? Parce que tellement le travail prend de l'ampleur et devient un mauvais maître. Et dans ce sens-là, c'est vrai. Mais à l'origine, Dieu nous a quand même créés pour travailler, c'est la mission qu'il confie à l'homme, celle de dominer sur la création. Et clairement, il ne s'agit pas d'une domination cruelle ou destructrice pour l'intérêt de l'homme, mais pour prendre soin. Et effectivement, on a une description de cette domination au chapitre 2, où on a ce deuxième portrait de la création. Et je lis à partir du verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. » Et je passe au verset 19. « L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. » Donc voilà la description ici de dominer. C'est de cultiver et garder d'un côté, et c'est de nommer également de notre côté les animaux. Donc l'homme n'écrase pas. On voit cela même parce que les animaux viennent vers lui. Dieu envoie les animaux qui viennent vers lui. Ils ne sont pas dans la peur, mais dans une relation. Et donc, au travers de ces quelques versets, on voit que l'homme et la femme dominent dans le sens d'ordonner, d'organiser. Ils viennent favoriser la vie et la beauté dans la création de Dieu. Donc, c'est la domination dans le sens de prendre soin. Ils ont reçu de la part de Dieu un monde harmonieux et fonctionnel comme cadeau. Et cette domination est justement de maintenir l'harmonie, de maintenir la beauté, d'encourager la vie et de la développer sur la terre. Et il peut faire cela grâce à toutes les compétences que Dieu lui a données, compétences manuelles, intellectuelles, artistiques et créatrices. Mais lisons juste aussi encore au chapitre 1, par exemple les versets 3 à 5. Dieu dit « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Je passe au verset 9. Dieu dit « Que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. » Il en fut ainsi. Dieu appela terre la partie sèche, et il appela mer la masse des eaux. Ce qui est intéressant de noter ici, et pourquoi je lis ces deux passages, c'est que le premier à organiser la création et le premier à nommer la création est Dieu lui-même. Et quand Dieu demande à l'homme d'organiser, de structurer et de nommer, il demande à l'homme et à la femme de faire exactement ce que lui a fait. Et en ce sens-là, le travail, c'est de prendre la suite de Dieu. C'est de continuer l'œuvre de Dieu à sa suite, comme lui. Dieu est un Dieu qui travaille. Et en étant à sa ressemblance, il nous a créés travailleurs, capables d'activité. Et clairement ici, nous n'avons pas de notion de salaire. Ensemble, l'homme et la femme, à la manière de Dieu, en fait, sont appelés à repousser le chaos pour installer l'ordre, à repousser le chaos pour développer la beauté dans toute la création. Et cela, l'homme et la femme le font par leur travail, par leur activité. Et dans ce sens-là, rappelons-nous aussi que nous sommes à ce moment-là où tout était très bon. Le travail est très bon parce qu'on le fait à la ressemblance de Dieu et à la suite de Dieu pour développer l'harmonie, pour que l'harmonie, la beauté de Dieu envahisse toute la terre. Dieu l'a créé dans le jardin et ils sont appelés à déborder et aller sur toute la terre. Ce qui veut dire que même pour nous qui vivons après la chute, après cette rupture, après cette séparation d'avec notre Créateur, c'est vrai que le travail subit la malédiction, mais le travail en lui-même n'est pas une malédiction. Et c'est vrai que même en tant que chrétien, on a souvent ce regard sur notre travail. Nous travaillons parce que nous sommes maudits. Non ! D'après ces textes-là, nous travaillons parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais notre travail est pénible et difficile parce qu'il a été maudit à cause de notre séparation d'avec le Créateur. Parce qu'on ne sait plus travailler comme notre Créateur, à la suite de notre créateur. Et cela revient clairement comme bénédiction dans la suite du récit biblique, où Dieu rappelle, avec la sortie d'Égypte notamment, « Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras 1 jour. Tu travailleras, c'est une bonne chose pour toi. C'est comme ça que tu me reflètes en tant qu'homme et en tant que femme créée à mon image. » Alors, à cette question « Pourquoi, en un mot, travaillons-nous ? » Nous travaillons parce que nous avons été créés pour travailler. Nous travaillons comme manière d'être à l'image de notre Créateur, de refléter notre Créateur. Et cela est une très bonne chose encore pour nous après la chute. Et pourquoi travaillons-nous en 2 mots ? Pourquoi, dans quel but, dans quel sens nous travaillons à la suite de Dieu pour repousser le chaos ? Et encore aujourd'hui, dans notre travail, nous sommes appelés à repousser le chaos et à poursuivre l'harmonie sur cette terre, que ce soit de manière rémunérée, et donc reconnue et valorisée par notre société, ou non rémunérée, même si ce n'est pas valorisé et reconnu par notre société. Pourquoi ? Parce que dans ces 2 cas, c'est reconnu et valorisé par notre Créateur, tout simplement. Et nous repoussons le chaos au niveau physique, matériel, en cherchant à prendre soin de notre planète, en donnant un cadre de vie agréable. Nous repoussons le chaos moral aussi, en éduquant nos enfants, en donnant des valeurs morales à la société. C'est pour ça qu'il y a la politique aussi. Nous repoussons le chaos spirituel également par notre témoignage en tant que chrétien. Mais nous continuons cette œuvre à la suite de notre Créateur. Mais clairement, cela va plus loin que simplement l'harmonie du jardin. Effectivement, travailler, nous montre nos textes, est aussi un service pour mon prochain. Je reviens sur le verset 15 du chapitre 2. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Peut-être à la place de cultiver, c'est rendu par travailler ou par servir. En tout cas, c'est comme ça aussi que le terme peut être traduit et qui est traduit comme ça dans d'autres passages de la Bible. Et au travers de cela, il est clair que Dieu ne place pas l'homme dans le jardin pour la gloire du jardin, pour servir le jardin. L'objectif n'est pas le jardin. Quel est l'objectif ? L'objectif est le prochain. Je reviens à nouveau au chapitre 1. Désolé, on fait un peu du ping-pong là. Verset 28. Dieu les bénit, donc l'homme et la femme. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. L'homme n'organise pas le jardin, encore une fois, parce que le but ultime, c'est la beauté du jardin. Mais il le fait pour nourrir tous les êtres vivants à venir. Ceux qui vont venir par la multiplication, justement. Autrement dit, par notre travail, nous favorisons et nous permettons la vie de notre prochain. Nous servons notre prochain, nous prenons soin de lui, nous lui permettons d'avoir à manger et nous lui permettons d'être dans un cadre de vie sécurisant, sécurisé, et où il a ce qu'il lui faut. C'est dans ce sens, d'ailleurs, que Luther, à propos de la prière de Jésus-Christ, notre Père, où il dit « Donne-nous notre pain quotidien », a fait la remarque que Dieu donne notre pain quotidien, mais il le fait par la main du boulanger. Dieu répond à notre besoin, Dieu prend soin de notre besoin, mais il le fait par le travail de quelqu'un d'autre, par le travail de quelqu'un d'autre à qui il a donné pour mission de prendre soin de son prochain. En faisant son pain. Autrement dit, Dieu prend soin des êtres humains, créés à son image, par la médiation d'autres êtres humains aussi créés à son image et qui travaillent à sa suite, comme lui. Ce qui nous rappelle que chaque activité compte. Chaque activité est utile dans la main de Dieu pour prendre soin de notre prochain. En lien avec ça, il y a un théologien qui nous propose la situation suivante. Il dit, voilà, imagine un instant la situation suivante. Imagine qu'aujourd'hui, tout le monde, en un instant, arrête de travailler. Ah, la classe, on va aller à la plage, ce sera les vacances. Mais dis, réfléchis un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passerait vraiment? Si tout le monde aujourd'hui s'arrête de travailler, bientôt il n'y aura plus de nourriture dans les magasins. N'est-ce pas? Fini l'essence à la station d'essence. Et donc nos rues ne sont plus sécurisées par les patrouilles de police. S'il y a un feu, pas de chance. Personne pour l'arrêter, les pompiers ne peuvent pas venir. Si tout le monde s'arrête de travailler, les communications cessent. Plus de téléphone, plus d'internet, plus de courrier. Ce qui veut dire que tu ne téléphones plus à ta mère qui se trouve à l'autre bout de la planète. Ou à Damien, en Australie. Fini. Vous le reverrez, je ne sais pas quand. Parce qu'il n'y a pas de bateau, il n'y a pas d'avion, rien. De même pour le transport donc des services comme les médicaments, les matériaux de construction. Tout ça, ça s'arrête. Et il nous dit, en fait, si on va jusqu'au bout de notre réflexion, effectivement, ceux qui survivent, parce qu'il y en a plein qui vont mourir, n'est-ce pas? Mais ceux qui survivent se retrouvent bientôt autour du feu, dormant dans des cavernes et habillés avec des peaux d'animaux. Ça vous rappelle quelque chose? La différence entre l'état sauvage et la culture, c'est notre travail. La différence, je ne parle pas de l'évolution, hein, la différence entre l'état sauvage et la culture est notre travail. Par notre travail, nous prenons soin, nous contribuons à la culture, nous contribuons aux soins de ceux qui sont autour de nous. Nous servons notre prochain pour apporter sa nourriture, son vêtement, son éducation, sa santé, sa sécurité et même sa détente. Et cela, que ce soit une activité rémunérée ou non rémunérée. Ce qui veut dire que par notre travail, encore une fois, ou par notre activité, hein, excusez-moi, je vais mélanger toujours un peu les deux parce que c'est un peu ancré dans ma tête, mais que ce soit rémunéré ou pas, d'accord? En fait, on est en train d'accomplir le deuxième grand commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Par ton travail, tu es en train d'aimer ton prochain. Et c'est la question que je te pose pour toi alors. Dans ton activité, rémunérée ou pas, comment, dans ton activité, tu aimes ton prochain? J'aimerais vraiment t'encourager à y réfléchir. Parce qu'on a besoin aujourd'hui, nous, de retrouver, comme nous disait cette philosophe Julia de Funès, on a besoin de retrouver ce sens. Dans quel est le sens de notre travail? En quoi par mon travail? Et c'est vrai que parfois, il y a beaucoup de choses pénibles dans mon travail, franchement. Il y a beaucoup de choses, parfois même absurdes dans mon travail, ou parfois même de l'ennui dans mon travail. Mais j'ai besoin d'être à nouveau motivé pour retrouver ce sens et de comprendre en quoi j'aime mon prochain. Parfois, pour ceux qui sont dans le médical, on peut se dire c'est facile, ils l'aiment en le soignant, en préservant sa vie. Pour des profs, c'est facile, ils l'éduquent, ils aident à développer ses compétences. Pour un technicien de l'armée, en quoi il aime son prochain, franchement? En assurant sa sécurité, n'est-ce pas? Et par la police aussi? On prend soin de la sécurité de notre prochain? On lui permet de vivre dans un cadre sécurisé? Où on va permettre de protéger son intégrité en contribuant à la défense? Pour un commercial des télécommunications, en quoi, franchement, on contribue à aimer notre prochain? Exactement. Pour un parent au foyer, franchement, où personne ne met en valeur son travail, où tout le monde méprise son travail, en quoi un parent au foyer contribue à aimer son prochain? Parce que franchement, les mères au foyer, ça coûte cher, hein? C'est un peu l'envers de notre société, n'est-ce pas? Vous pouvez demander à Claire, on lui a souvent dit. Exactement, exactement. On contribue à éduquer le prochain, les enfants, pour leur apprendre un minimum à vivre en société. Si on n'aura pas en proie à vivre en société, si que ce soit les mères ou les pères au foyer, hein, ça c'est égal, hein. Mais on leur apprend à bien vivre. Et cette question, c'est pour toi. En tant que chômeur, en tant que retraité, dans ton travail rémunéré,
ou pas rémunéré, en quoi ton travail contribue à l'amour du prochain. Je t'encourage vraiment à y réfléchir, à trouver une vraie réponse. Même en tant qu'étudiant, en quoi je contribue à l'amour du prochain. Parce qu'on a besoin de retrouver ce sens pour persévérer. Parce que franchement, il y aura des moments où ça va être difficile, où on n'aura pas de la valeur de la part des autres, mais nous-mêmes, on ne verra pas la valeur et le but et le sens de ce qu'on fait. Et on a besoin de retrouver ce sens pour se replacer devant Dieu, pour aller de l'avant dans ce que Dieu nous donne. Alors c'est clair, je te promets que ça n'enlèvera pas la pénibilité de ce travail, mais ça te permettra de retrouver sa valeur qui te permettra de remplir cette mission joyeusement. Je te remets une question provocatrice. Est-ce qu'en tant que chrétien, on travaille pour l'argent ?
Aussi.
C'est vrai qu'en général, on est mal à l'aise, quoi. On aurait tendance à dire non, attention, là, maman, il ne faut pas servir maman, on a du argent. Mais oui, aussi, pourquoi ? Parce qu'en tant que croyant, on ne veut pas, clairement pas faire de l'argent le but de notre vie, n'est-ce pas ? Mais on travaille dans l'argent parce que on travaille pour gagner de l'argent dans le sens que par les finances que nous rapporte notre travail, on peut prendre soin de ce que Dieu nous confie. Si je faisais que le travail que j'aime, par exemple, c'est pas mon cas, hein, mais si je faisais un travail d'artiste, on sait très bien qu'il faut que j'attende d'être mort pour avoir de l'argent, n'est-ce pas ? Mais c'est pas ça qui va donner de l'argent à ma famille. Donc si je faisais un travail d'artiste parce que j'aime ça, et que franchement je rapporte 10 francs par mois parce que j'ai vendu enfin un tableau, c'est pas avec ça que je vais nourrir ma famille. Et dans ce sens-là, à un moment donné, je vais devoir renoncer à ce que j'aime pour travailler, pour ramener plus d'argent, parce que ma responsabilité, c'est de nourrir mes enfants et de contribuer à payer leurs études. Et dans ce sens-là, je gagne, je travaille pour de l'argent aussi, par amour pour mon prochain, qui est entre autres ma famille, mais parfois, ça peut être mon frère ou sœur dans l'église, peut-être ça peut être le gars qui traîne dans la rue, un SDF, pour lui acheter un sandwich. Et là, effectivement, on travaille aussi pour l'argent. On doit faire attention à avoir ce bon rapport à l'argent aussi en tant que chrétien. Ne pas le voir comme toujours mauvais. Non, c'est un cadeau de Dieu. Le problème, c'est ce qu'on en fait, n'est-ce pas ? Travailler une mission confiée par Dieu, travailler un service pour mon prochain. Mais travailler, c'est aussi une adoration vers Dieu. Manière étonnante. Dans ces récits créateurs, dans Genèse chapitre 1 et 2, on observe l'absence de la mention de l'adoration. On ne voit personne chanter, personne prier, personne lire la Bible. Normal. Ça n'y était pas. Mais personne en pleine activité d'adoration. Pourquoi ? Regardez ce que le psalmiste dit. Psaume de David, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Ce qui est assez joli, c'est que dans un langage poétique ici, David nous dit que la nature adore Dieu. Elle célèbre Dieu, elle raconte sa gloire, elle annonce l'œuvre de ses mains. La nature, pourtant, on ne la voit pas chanter, on ne la voit pas prier, n'est-ce pas ? Alors c'est clair qu'il ne faut pas voir un esprit derrière tous ces éléments, d'accord ? On n'est pas dans l'animisme ici. Mais simplement, en fait, David nous dit, la nature en étant ce qu'elle est par la volonté de Dieu, célèbre Dieu. Simplement, en vivant comme Dieu lui a donné d'être, elle célèbre Dieu. Et au final, c'était exactement la même chose au départ pour l'être humain. Il n'avait pas besoin d'apprendre à adorer ou à glorifier, parce que c'était naturel. C'était ce pourquoi il avait été créé. Donc tout ce qu'il faisait était adoration. Tout ce qu'il faisait était célébration de la gloire de Dieu. L'homme n'adorait pas Dieu en se disant « purée, il faut que je prenne un moment pour prier, il faut que j'aille à l'église, ou il faut que je lise ma Bible », parce que c'était quelque chose de tellement naturel en lui. Et le travail en faisait partie. Parce qu'il avait été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour travailler comme Dieu, à la suite de Dieu. Et le travail faisait partie de cette célébration, de cette adoration envers le Dieu qui m'a créé. Et effectivement, je reviens sur ce verset 15 du chapitre 2, où on a ces deux verbes particuliers, n'est-ce pas ? Cultiver et garder. Et si on s'amuse à voir comment ils sont utilisés dans la suite du récit biblique, notamment quand ils sont utilisés ensemble, on remarque que ces deux verbes sont utilisés pour décrire l'activité des Lévites. Les Lévites qui étaient là pour cultiver le service de Dieu, pour cultiver le temple, c'est-à-dire pour servir Dieu, pour célébrer le culte. Cultiver, culte, c'est exactement la même racine. Et pour garder la parole de Dieu, garder cette parole et la transmettre au peuple. Et ces deux termes ensemble nous décrivent clairement l'activité de l'adoration des Lévites dans le temple et dans le tabernacle. Et au final, en fait, ce qui s'apparente dans un premier temps à de l'agriculture se retrouve être en fait de l'adoration, un attachement à Dieu, une relation. L'adoration de l'homme et de la femme correspondait simplement à vivre ce pour quoi Dieu les avait créés. Dominer, prendre soin, travailler. Pas de séparation entre le religieux ou le spirituel et le profane. Ces deux-là étaient toujours ensemble. Ça a été séparé avec la chute et en Jésus-Christ, ça a été à nouveau réuni. Et c'est pour ça que Jésus-Christ lui-même dira ceci. Face à cette question, c'est quoi le plus grand commandement ? Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Mais Jésus, remarquez, ne nous dit pas dans quel cadre. Il ne dit pas, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur à l'église. Tu aimeras le Seigneur de tout ton Dieu quand tu liras la Bible le soir avant de te coucher. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, tout le temps, toute ta vie, 24 heures sur 24, quand tu travailles aussi. Parce que c'est la même chose qu'au début à la création. Par notre travail, nous sommes appelés à adorer Dieu. Ça doit impacter toute notre vie, y compris notre travail. Et Jésus nous dit clairement ici, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même tout le temps, aussi quand tu travailles. Aussi quand tu travailles. Nous adorons Dieu et nous aimons notre prochain par notre travail, ou du moins, nous devrions le faire. Nous devrions le faire. Et Jésus nous dit ici clairement que ceux qui adorent Dieu tout le temps ne sont pas les missionnaires. Ce ne sont pas les pasteurs. Ce ne sont pas ceux qui s'enferment dans une maison de prière pour prier 24 heures sur 24 par un relais. Non, ceux qui adorent Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sont les chrétiens. Quoi qu'ils fassent, où qu'ils soient, avec quelle que soit la personne avec qui ils sont. Que ce soit par Internet ou en direct. Tu es appelé, je suis appelé à adorer et à aimer. Question, qu'est-ce que cela change en pratique dans notre journée de travail ? En quoi cela change ? Est-ce que j'ai remis ça ? Tac. En quoi ces trois points-là changent notre journée de travail, autant dans mon entreprise que comme bénévole ? Vas-y. Ouais, exact. Dans un article récent, il y a un auteur qui parlait des valeurs suisses. Et il affirmait la chose suivante, que, en fait, le travail a une grande importance en Suisse. Et c'est le travail qui donne, en Suisse, c'est le travail qui donne de la valeur aux personnes. Et c'est ressorti aussi dans une autre étude, qui était assez intéressante. Et c'est une question qui était posée aux Suisses. Pour vous, les Suisses, qu'est-ce qui vous permet de décrire un vrai Suisse ? Donc c'est intéressant, hein ? À un Suisse, on pose la question, c'est quoi qui te permet de décrire un vrai Suisse ? Autrement dit, il y a des faux Suisses. Et les Suisses ne considèrent pas comme un vrai Suisse ceux qui dépendent de l'aide sociale. ou ceux qui ne travaillent pas de manière à être rémunérés. Un vrai Suisse gagne de l'argent et ne dépend pas des autres. Qui est vrai Suisse ici ? Voilà les valeurs de la Suisse. Voilà les valeurs dans lesquelles on baigne. Et voilà les valeurs qui nous gagnent, ça veut dire. Qu'on le veuille ou pas, elles ont une immense influence sur nous. Parce qu'on baigne dedans depuis qu'on est petit. Et en quoi l'Évangile change nos valeurs ? En quoi l'Évangile change notre regard sur notre travail ? L'Évangile nous dit, le travail n'est plus le moyen de démontrer notre valeur. Notre valeur n'est plus dans ce que nous faisons, la valeur est dans celui qui nous a créés. Et parce qu'il nous a créés, alors nous pouvons travailler à sa suite. Mais on ne gagne pas et on ne donne pas du sens par notre travail. L'Évangile nous dit aussi que le travail n'est plus centré sur moi. En fait, il est centré sur tout le monde sauf sur moi. Il est centré sur mon prochain, il est centré sur Dieu, mais pas sur moi. Et ça, ça nous libère et ça permet de donner ce nouveau sens. Ça libère autant celui qui a un travail rémunéré, ça le libère d'un esprit de compétition malsain, où il est toujours en train de devoir chercher et prouver sa place. Parce qu'on cherche sa place en écrasant, en dominant, voire en trichant. Et on peut arrêter cela. On n'a pas besoin de voler la gloire dans notre... Si, je ne sais pas comment c'est à votre travail, hein. Et quand je travaillais, quand j'avais un vrai travail, et que j'étais prof, On était 4 profs dans notre laboratoire de biologie. 4. Moi, j'étais encore stagiaire. On était 2 stagiaires et 2 titulaires. Et chaque stagiaire avait un titulaire responsable, d'accord ? Et on était haut perché, tout en haut, dans le bâtiment de sciences. Et quand on mangeait ensemble, les profs de sciences, physique, chimie et biologie et géologie, on pouvait se raconter à quel point c'est bien la science, parce que franchement, les autres matières, c'est pas très intéressant, quoi. C'est pas ça qui fait la vie, c'est pas ça qui fait du bien aux élèves. Ils ont besoin de la science pour réfléchir, mais l'histoire, les lettres, etc., non. Mais ce qui était encore plus intéressant, c'est que quand on mangeait que dans le laboratoire de biologie et géologie, sans la physique-chimie, ben là, tout d'un coup, on critiquait aussi ceux qui étaient en physique-chimie. Les profs de physique-chimie, ils font ça, gna 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 gna. Mais encore plus intéressant, quand on se retrouvait avec une seule titulaire, on se dit, oh, c'est Philippe, l'autre titulaire, attends, je ne me souviens plus de son nom, Annie. Ah, Annie, franchement, elle fait ça, ou elle est un peu vieille aussi. Mais toujours en train de critiquer. En fait, on critique toujours l'autre. Pourquoi on n'arrête pas de critiquer l'autre, franchement ? Pourquoi moi, je critique toujours l'autre ? Est-ce que vous avez remarqué que quand on critique l'autre, on se met en avant ? En fait, si l'autre, on le critique et on le met bas, c'est que nous, on est plus haut, n'est-ce pas ? Et c'est la même chose dans l'Église. N'est-ce pas ? Le travail, notre travail, n'est plus un moyen de trouver notre sens. Mais ça nous libère de toute cette attitude de critique, de violence, de mépris, d'écrasement. Et ça nous permet même de nous réjouir des compétences de l'autre. On peut lui dire bravo, merci pour tes compétences. Je me réjouis que ça, tu sais faire. On peut les valoriser. Parce que franchement, il y a plein de choses que moi, je ne sais pas faire. Et heureusement que toi, tu es là pour les faire. Je peux même me réjouir que l'autre reçoit une promotion, qu'il monte en grade ou qu'il a un salaire supérieur au mien. Parce que ma valeur n'est pas dans la manière, dans mon grade, dans la titulature de mon travail, ni dans mon salaire de mon travail. Mais c'est en Dieu seul. L'Évangile me permet même de me lancer dans une saine concurrence. C'est pas que la concurrence est mauvaise, mais une saine concurrence. On veut chercher à développer le meilleur produit. Pas pour être reconnu, mais pour le client. On va développer ce qu'il y a de mieux, développer et lancer à fond nos compétences pour développer un produit qui soit adapté pour notre client, qui préserve l'environnement, quelque chose qui dure au lieu de quelque chose qui va se détruire. Parce que franchement, ce qu'on veut, nous, c'est que ça casse et qu'ils rachètent. Ou alors, c'est d'être reconnu, encore une fois. Pendant mes études de bio, c'était impressionnant. La seule objectif de mes profs de bio, c'était d'avoir une loi de biologie écrite à leur nom. Ou alors d'avoir un Nobel. C'était impressionnant. Et pour cela, je vous garantis que nombre d'entre eux étaient divorcés. Parce que l'objectif de leur vie avait sacrifié tout le reste. Un Nobel ou une loi qui porte leur nom. Mais l'Évangile nous dit non, c'est pas là ta valeur. Ça libère aussi ceux qui exercent une activité non rémunérée, pardon. Tel un parent au foyer, un bénévole qui est au chômage, un retraité. Parce que son travail, son activité a autant de valeur aux yeux de Dieu que celui qui reçoit 10, 15, 20 000 francs par mois. Lui aussi a autant de valeur. Et c'est là où nous, en tant qu'Église, on doit faire gaffe. Il devra en avoir autant à nos yeux aussi. Est-ce qu'on regarde nos chômeurs comme des vrais Suisses ou pas? Mais franchement, on doit faire attention à ça. Parce qu'on est gagné par ça. Et cela libère aussi celui qui fait un travail considéré comme ingrat ou non reconnu. Celui qui semble être mis au placard, et il y en a aussi. Parce que par l'Évangile, il peut retrouver une nouvelle motivation pour aller au travail, dans la perspective d'aimer son prochain. C'est vrai, je ne suis pas considéré, je suis mis au placard par mon boss, mais je veux bien faire mon travail, parce que ça donne de la sécurité, ou ça pourvoit, ça alimente quelqu'un d'autre. Et je veux bien le faire, non pas pour regagner de la considération, mais au final pour glorifier Dieu. L'Évangile nous libère. Dieu nous a créés pour que nous puissions travailler, travailler à sa ressemblance, pour servir notre prochain et pour aimer Dieu. Et j'aimerais vraiment te laisser avec cette question-là. Alors, comment le sens que Dieu donne à ton travail, comment le sens, la valeur que Dieu donne à ton activité impacte-t-il ta manière, ma manière de travailler? Comment ça va impacter demain quand je vais aller à l'entreprise? Comment ça va impacter demain quand franchement les enfants seront pénibles à la maison? Comment ça va impacter demain ma manière de me lever alors que je suis chômeur ou retraité ou autre? Et c'est vrai, on vit dans ce temps où le travail est devenu pénible, n'est-ce pas? Et tout ce qu'on a dit ne va pas enlever la pénibilité. En fait, la pénibilité ne sera enlevée que lors du retour de Jésus-Christ. Et en attendant, il y aura différents types de tentations, différents risques d'idolâtration de notre travail. On va plus en parler la semaine prochaine. Mais c'est vrai qu'on doit remarquer aussi qu'on pêche par notre travail, qu'on recherche notre valeur, qu'on enlève la valeur à quelqu'un d'autre, quand on méprise quelqu'un d'autre, si on le considère comme un vrai Suisse ou comme un faux Suisse, etc. Et c'est là aussi où j'aimerais nous conduire vers la scène. C'est à cause de nos péchés dans notre travail aussi, encore une fois, nos activités rémunérées ou pas, c'est à cause de ces péchés-là aussi que Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour nous réconcilier avec notre Créateur, c'est vrai. Mais Jésus-Christ est mort pour régénérer toute chose. Il est venu pour régénérer mon cœur, mais il est aussi venu pour régénérer ma manière de travailler, ma manière de considérer mon travail, ma manière de considérer les autres au travail, etc. Et c'est aussi à cause de ces péchés-là que nous voulons prendre la scène, que nous avons besoin du pardon, nous avons besoin du pardon de Dieu pour notre péché dans notre activité. Et je vous encourage à prendre le temps d'y réfléchir aussi. Quel est mon péché au travail? En quoi je pêche dans mon travail? Est-ce que c'est ma valeur, ma manière de parler, ma manière d'être honnête, ma manière de considérer l'autre ou pas? Et face à cette réflexion, j'aimerais nous encourager chacun à prendre le pain et le vin. Pour toi qui as accepté que Jésus-Christ est mort pour toi, à cause de toi, à cause de ta manière de travailler. Pour toi qui as accepté cette paix et ce pardon que Dieu offre, réjouis-toi du pardon donné. Prends ce pain et ce vin en te rappelant « Le pardon est un cadeau que Dieu me fait encore aujourd'hui. » Oui, je ne suis pas digne. J'ai encore une fois échoué. Mais Dieu me rend digne. Dieu me tend toujours sa main. Dieu me relève. Jésus-Christ est mort pour cela. Pour toi qui n'as pas encore fait cette paix, qui n'as pas encore accepté cette paix que Jésus-Christ offre, laisse simplement passer. Prends le temps de considérer ce pardon que Dieu offre à tous les hommes. Et si tu aimerais en parler, viens avec les personnes avec qui tu viens d'habitude ou qui t'a invité. On peut en parler ensemble après si tu le désires. Mais prends le temps d'y réfléchir. Mais sinon, pour les autres, réjouissons-nous encore du pardon. Et face à ce pardon, laissons ce pardon transformer tout notre être et notre travail aussi.